Bonjour. Alors, pour pas trop retarder la session, donc pendant que vos coordinateurs se coordonnent pour organiser la succession des passages, donc je voudrais simplement donc introduire hein, cette matinée. Peut-être aussi en commençant par présenter les personnes qui sont là. Donc bon, vous avez vos enseignantes, vous avez Gilles Jeannot hein, que vous avez vu hier. Ah non, peut-être pas tous. Tu veux dire un mot en tant que président?
Intègre aussi une partie de l'accompagnement professionnel. Donc, vous êtes là maintenant sur la fin du cycle avec Rex, mais on va démarrer là bientôt quelque chose avec les premières années autour de cinéma et travail. On est en train de renouveler un peu les choses pour essayer de déguiser votre curiosité sur le monde du travail et de vous faire anticiper, mais je crois que vous l'avez déjà bien senti, qu'une grosse part des ennuis que vous aurez ne seront pas liés aux questions techniques, mais aux questions humaines et sociales. Mais c'est aussi des joies, donc vous avez pu le voir.
Voilà, donc je vais introduire aussi donc Madame Chabert, et qui donne de l'ANACT, hein, qui va dire peut-être un mot sur sa mission et sur le concours dont je vous ai parlé hier.
Oui, bonjour. Donc je suis Florence Chabert, je travaille à l'ANACT. L'ANACT, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui dépend du ministère du Travail. Et notre mission, c'est d'agir sur les conditions de travail, non pas au niveau du poste, mais au niveau de la qualité de l'organisation, au niveau de la qualité du management, au niveau de la prise en compte, justement, de ces fameux enjeux de conditions de travail. On est venu à s'intéresser à ce sujet à partir de la crise sur les risques psychosociaux, faisant le constat que beaucoup d'ingénieurs et de managers n'étaient pas suffisamment formés, outillés à conduire des transformations à un rythme incessant, conduire des équipes, des savoir-faire managériaux, finalement, qui leur manquaient, alors qu'on confie aux ingénieurs et futurs managers des responsabilités de projets, d'organisation, d'équipes de plus en plus tôt. Du coup, l'ANACT, qui travaillait essentiellement en direction des entreprises, travaille aujourd'hui en direction des grandes écoles, notamment, mais aussi de l'ensemble des parcours universitaires, pour faire évoluer ces formations et mieux intégrer ben, les enjeux de, finalement, l'humain au travail. Et pour ça, on a fait tout un travail d'audition, à la fois auprès des entreprises et des administrations pour leur demander, mais finalement, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous attendez des futurs, enfin, et actuels ingénieurs, managers, et c'est là qu'on s'aperçoit que les enjeux de qualité de vie au travail sont peu intégrés. Hein, des dirigeants qui nous disent, c'est la cerise sur le gâteau, on n'est pas dans le monde des bisounours, des managers qui disent si on s'occupe de qualité de vie au travail, on va être en porte-à-faux avec notre hiérarchie, et des chefs de projet qui n'ont pas conscience des impacts de leur projet, des impacts humains de leur projet sur les conditions de travail. Et puis on a été également mener des auditions auprès d'un certain nombre d'écoles, une trentaine d'écoles d'ingénieurs. Et j'avoue que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce aux échanges que j'ai eus d'abord avec Madame Mathieu, Monsieur Jeannot, Monsieur Grandjean, M. Laoukili aussi, qui était un des intervenants, qui m'ont expliqué ce que la démarche qui avait été entreprise depuis plusieurs années sur le retour d'expérience du stage ingénieur. Parce qu'aujourd'hui, grosso modo, alors je dévoile un petit peu les résultats d'un livre blanc qui va sortir à la fin du mois, dans les écoles d'ingénieurs, l'essentiel de la formation humaine sur le travail, le management de l'organisation, se résume au stage ouvrier, avec un petit rapport, avec un peu de réflexivité, peut-être un cours de sociologie des organisations. Et pour moi, de ce que j'ai vu, vous êtes une des seules écoles, alors je ne peux pas dire une des seules parce que je n'ai pas vu les 220, qui propose réellement un retour d'expérience approfondi, qui pourrait bien sûr sûrement être amélioré, etc., mais conséquent au niveau du stage ingénieur, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres écoles. Or, pour majeure partie d'entre vous, et plus on monte dans la gradation des écoles, plus on sait que, effectivement, les problèmes auxquels vous allez être confrontés sont des problèmes d'organisation, de management, des problèmes humains au travail, et que les problèmes techniques, soit vous aurez des équipes pour effectivement les mettre en œuvre, soit c'est finalement pas le plus compliqué. Alors, du coup, nous, notre semaine de la qualité de vie au travail, on la mène chaque année au niveau de l'ANACT et de son réseau. Elle s'intitule, alors vous ne voyez pas, il y a une petite affiche, « Un management de qualité, virgule, ça s'apprend, point d'interrogation ». Parce que beaucoup de gens qu'on a rencontrés nous ont dit, ou m'ont dit, mais Madame, ça ne s'apprend pas. C'est inné, les qualités humaines de management. Ou bien ça s'apprend avec l'expérience, ou bien de toute façon, ça ne s'apprend pas. Et c'est aussi le sondage, la confirmation qui a été faite dans un sondage qu'on a mené avec la conférence des grandes écoles et TNS. Donc, nous allons, dans le cadre de ce colloque qui aura lieu le 9 octobre, où il y aura des responsables d'entreprise, des responsables pédagogiques, des consultants, et aussi des étudiants, sans doute une représentation d'Ingénieurs sans frontières, des étudiants, sans doute lauréats, et j'aimerais bien qu'il y en ait un parmi vous, au moins un groupe parmi vous, lauréat de ce fameux concours vidéo que nous avons lancé. En 3 minutes, on aimerait que vous nous fassiez partager. Alors, ce n'est pas la qualité de la vidéo qui est la plus importante, c'est l'idée innovante. La qualité de vie au travail, ce n'est pas le massage, le baby-foot, la conciergerie d'entreprise. La qualité de vie au travail, c'est un travail qui a du sens, c'est une organisation de travail qui fait qu'on n'est pas dans le taylorisme, c'est un management collaboratif. Voilà, et on souhaite vivement que le maximum d'équipes puissent présenter leurs vidéos. On en retiendra 3, elles seront primées. Alors, il y a aussi des petits prix assortis, je peux vous donner plus d'éléments, mais je crois que vous pouvez, en allant sur le site, vous avez, voilà, de l'ANACT. Et c'est aussi la possibilité de participer l'après-midi. Alors, à la fois, les vidéos seront visionnées en plénière. On espère la présence de Madame la ministre du Travail, même si, bon, elle est plus occupée par des ordonnances que par la qualité de vie au travail aujourd'hui. Mais elle s'en est occupée un temps donné, et elle avait fait un rapport qui avait fait date. Et l'après-midi, nous aurons des ateliers pédagogiques collaboratifs, un sur la formation initiale, où d'ailleurs l'École des Ponts va participer, où on souhaite que des étudiants donnent leur avis aussi sur le contenu des formations et participent à la construction d'une meilleure intégration, finalement, des questions d'innovation technologique, innovation sociale, innovation organisationnelle. Voilà, bah, je suis très curieuse et j'attends avec beaucoup de plaisir de voir vos travaux. Je sais que vous les avez faits dans des temps très courts, mais je suis sûre que ça sera super. Et c'est vous qui construisez le travail des entreprises de demain. Voilà.
Bien, on va vous laisser la parole. Hein, donc, avec une première séquence jusqu'à environ 10h30, une toute petite pause, hein, parce que ça sera assez court, et ensuite il y aura une deuxième séquence. Alors, simplement une consigne, parce que donc toute la séquence, toute la matinée va être enregistrée, hein, et donc dès que vous prenez la parole, vous prenez le micro pour pouvoir, en fait, pour la captation. Hein, parce que sinon, si vous parlez sans micro, on ne vous entendra pas sur la captation. Voilà, bah, je vous remercie, puis donc à vous.
Bonjour, on va appeler les groupes les uns après les autres. À chaque fois, on aimerait bien que toute l'équipe descende, même si on sait bien qu'il va juste y avoir une ou deux personnes qui va sûrement parler pour présenter sa vidéo. Je pense que vous savez que vous pouvez faire un petit speech avant, après, pendant votre vidéo, vous êtes libre. Il faut juste que vous ne dépassiez pas 10 minutes, même moins que 10 minutes, parce qu'on a un peu de retard. Et 10 minutes en incluant les questions de l'audience, et puis le vote, on va vous faire un petit vote sur internet pour noter en instantané chaque vidéo. On a essayé pour la première année et demie d'organiser les vidéos pour suivre le parcours chronologique d'un nouvel arrivant dans une entreprise, et pour du coup je vais appeler le premier groupe, qui est celui qui a travaillé sur l'intégration des nouveaux arrivants.
Bonjour. On a le premier groupe présenté. On va parler de intégration au premier jour de stage. Donc, moi, je m'appelle Pédant, Luis Felipe. Et on va parler, notre vidéo, il va présenter 2 situations différentes dans un premier jour de stage. Une situation très limite, mauvaise, disons, où il n'y a pas eu du tout d'intégration. Et une deuxième situation où il y a eu une bonne intégration, où le stagiaire il a connu tous ses potes dans le premier jour de stage. Donc on va voir ces deux mémoires en sorte de flashback.
Salut, bonsoir. Ça va?
Ça va et toi?
Oui, j'ai une très bonne journée au stage. C'est mon premier jour aujourd'hui.
Ah bon?
Toi aussi, non?
Ouais, c'était mon premier jour, mais pas fameux.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé?
On va prendre un verre au début.
Oui, on prend un verre.
Bon, en fait, ce matin, voilà, j'y suis arrivé.
Bonjour, je m'appelle Patrick Lecomte. Bonjour.
Ah, oh, bonjour.
Non, non, en fait, je suis le nouveau stagiaire.
Vous avez un rendez-vous avec qui?
C'est Monsieur Lerouche, normalement.
Maintenant, il est en réunion.
Ah bon? Bon, je fais quoi?
Voir les autres ingénieurs. Allez.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Oui, en fait, je suis le nouveau stagiaire. Je viens discuter avec la secrétaire. En fait, normalement, c'est Monsieur Lerouche le responsable, mais vu qu'il n'est pas là, elle m'a dit de voir avec l'un des ingénieurs.
En fait, je ne suis pas au courant qu'on a un nouveau stagiaire. Est-ce que vous savez ce que vous devez faire ici? Vous avez une mission? Je peux vous donner, moi.
Tenez, voilà de quoi faire un peu de lecture.
Excusez-moi.
Ah oui?
J'ai quelques questions à vous poser.
Je suis désolé, mais j'ai pas beaucoup de temps maintenant. Est-ce que tu peux chercher quelqu'un d'autre?
C'est pas grave, je peux.
Ah oui, merci. Merci, merci.
On va manger?
Oui.
Ouais, carrément.
Ah oui, très bien, j'ai fini mon boulot, c'est bien passé.
Pour moi, c'était tout à fait différent. Dès que je suis arrivé dans le stage. Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Jean-François, je suis nouveau stagiaire.
Et moi, c'est Laïla, mon tuteur.
Enchanté.
On va faire le tour du bureau, comme ça on t'introduit aux autres ingénieurs.
Nickel,
on y va. Donc, on vient recevoir notre stagiaire.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Ça va?
Oui, ça va.
Enchanté.
Jean-François.
Thiago, bienvenue.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Enchanté.
Merci.
Bonjour.
Enchanté.
Bonjour.
Sébastien.
Donc, ça c'est ton poste. Voici ton mot de passe que tu changeras après ta première inscription et tu me dis s'il y a des problèmes. Ok?
Je t'ai des questions, n'hésite pas à me les poser.
Parfait, ok. Cool. Est-ce que je peux te poser une question bête et méchante?
Oui.
C'est quoi la charge ce nœud là? C'est pas affiché et.
Ah, tant que je cherche, donc, oui. Ah oui, c'est 10 000 kilos.
10 000, ça fait beaucoup, hein?
Ah oui, mais.
Alors, on va manger?
Allez,
Ça va.
Ouais, donc, ça se voit, toi, t'as eu une très bonne expérience et moi, pas si bien. Ouais, espérons que mon responsable il soit de retour prochainement.
Oui, ouais, c'est bien.
Ça se voit qu'on a exagéré dans les deux cas, mais c'est le but de la vidéo, c'est montrer un peu la différence, combien c'est important dès le premier jour, dès l'arrivée du stagiaire, de l'aider à s'intégrer avec les ingénieurs. Il se sent nouveau, mais c'est vraiment le rôle des ingénieurs pour le rendre confortable dans son nouveau environnement. Merci.
Vous étiez donc un groupe de combien? 8, c'est ça? 9? Combien d'entre vous, effectivement, dans votre stage là, d'ingénieur qui vient de se passer, ont eu une mauvaise expérience d'accueil et d'intégration? Oui, bien sûr. C'était avant tout la vôtre. Les autres, vous étiez plutôt satisfaits? Ça s'est plutôt bien passé?
Si, sauf pour Pédan.
Okay. Bon, je crois qu'on a tous eu de mauvaises expériences ponctuelles, mais... Pour moi, c'était une constante.
Ben bonjour à tous. Je suis Sonia et je suis accompagnée du coup de toute notre petite équipe, notre coordinateur Bastien qui est assis devant l'ordinateur et puis toute notre équipe de production, Gaël, Jérôme, Cyril, Alban. Ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est un moyen d'encourager au sein de votre équipe à la fois la cohésion et le partage de connaissances entre collègues, et ce, quel que soit leur niveau d'expérience. Ce qui est donc particulièrement adapté aux stagiaires qui peuvent se trouver en manque de crédibilité. Demandez à vos collaborateurs qui sont les moins expérimentés, stagiaires par exemple, est-ce qu'ils profitent suffisamment du savoir de leurs collègues qui ont le plus d'expérience ? Est-ce qu'ils ont le sentiment que leurs compétences font le poids face aux années d'ancienneté, d'expérience de ceux avec qui ils travaillent tous les jours ? Et finalement, ces derniers, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils n'ont rien à retirer des savoirs et savoir-faire de leurs cadets ? Ces questions, finalement, sont soulevées bien plus souvent qu'on le croit en entreprise, que ce soit une start-up ou un grand groupe, que ce soit une petite PME ou une beaucoup plus grosse structure. Et pour pallier à ça, la solution peut être parfois bien plus simple qu'on le croit. Que diriez-vous d'un rendez-vous entre collègues autour d'une pizza, d'un goûter, au cours duquel un membre de l'équipe, quel que soit son niveau d'expérience, présenterait aux autres un de ses projets, ou un sujet de recherche, ou une conférence à laquelle il a assisté dans le cadre de sa mission. Finalement, organiser à un rythme régulier, toutes les 3 semaines ou tous les mois, et fixer à l'avance par vous, ces moments de partage entre collègues sont l'occasion pour tout un chacun de proposer un thème et de discuter, seul ou en binôme, si éventuellement on manque un peu de confiance, d'un sujet professionnel qui lui tient à cœur. Un lieu, un horaire, un collègue motivé par le partage de ses connaissances et de quoi grignoter, c'est les seuls ingrédients nécessaires. Et finalement, cette méthode innovante de management va non seulement permettre aux membres de votre équipe de mieux connaître les compétences et les acquis de chacun, mais aussi donner à tous, du stagiaire en manque de crédibilité au chef de projet qui s'est peut-être un peu trop éloigné de ses collaborateurs, une occasion de montrer et de partager ce qu'il sait et ce qu'il sait faire. Donc on va vous présenter notre petite vidéo assez courte, mais qui explique notre principe.
Voici une stagiaire. Cette stagiaire vient d'arriver dans une entreprise et elle ne se sent pas crédible. Mais dans cette entreprise, on le comprend, et c'est pourquoi on y organise des réunions toutes les 3 semaines, au cours desquelles un employé présente une thématique, une conférence ou encore un projet sur lequel il a travaillé. Cela permet aux membres de l'équipe de mieux comprendre les compétences et les acquis de chacun. Aujourd'hui, c'est à elle de se présenter, et elle est un peu stressée. Mais pour rendre cela plus sympa, la présentation se déroule à l'heure du déjeuner, tout le monde y est convié, pizza illimitée et bien sûr, des fruits pour la santé. On allie ainsi l'utile à l'agréable, et grâce à la présentation, on montre à ses collègues que l'on a des connaissances, mais aussi des compétences. On se sent ainsi plus crédible.
J'avais une petite question complémentaire. Pour la personne qui a vécu ça de façon un peu plus centrée sur le partage des connaissances, c'était quel type d'organisation, quel secteur d'activité ?
Le génie civil, j'étais dans un bureau d'études. Et Bastien aussi a eu ce type de réunion. Et pareil, bureau d'études en structure. Et peut-être, enfin les deux étaient en Allemagne.
Et le troisième groupe, c'est celui qui a travaillé sur la flexibilité du temps de travail.
La flexibilité du travail, du temps du travail, et la gestion du temps mort et des périodes intenses. Nous, en tant que futurs managers, on peut regarder les sujets de flexibilité comme divisés par deux parties. On a d'un côté les horaires souples, et d'autre côté, on a la durée du travail.
Les horaires souples, c'est plus confortable pour les employés parce que ça permet de s'adapter en fonction de son énergie du moment. Moi, je sais que j'ai trouvé ça très confortable de pouvoir reculer mes horaires si j'étais fatigué et de pouvoir travailler plus tard ce jour-là.
Le but de la flexibilité du temps de travail, qu'est-ce que c'est ? C'est d'améliorer la productivité des employés. Pour ça, ça peut passer par améliorer leur qualité de vie. Je pense notamment à changer les horaires en fonction des activités extrascolaires, familiales, éviter le trafic, permettre de prendre des cours supplémentaires, des formations supplémentaires. Dans mon cas, on m'a demandé d'arriver à un certain horaire. À certains horaires, la porte était fermée, l'alarme était enclenchée. Du coup, j'ai pu négocier avec mon patron afin de pouvoir arriver un peu plus tard et en gardant le même taux horaire, en travaillant la même quantité, de finir un peu plus tard. Ça m'a permis d'arriver avec une porte ouverte, pas attendre, et d'aller à la piscine.
On a parlé de l'horaire souple, mais je pense qu'on peut aussi avoir une durée de travail adaptable. Ça veut dire, par exemple, dans mon cas, j'ai travaillé dans une entreprise, le temps de travail, on a tout pagé pour entrer, pagé pour sortir, et puis on a un contrôle sur la totalité de durée de travail pour chaque semaine. Chaque semaine, on travaille que 35 heures. Mais par jour, peut-être tu peux travailler une heure en plus aujourd'hui, mais tu peux travailler une heure moins le lendemain. Et je trouve ça, c'est vraiment raisonnable. D'un côté, on a une horaire souple, mais d'autre côté, le droit de travailler est bien protégé.
Alors, dans les entreprises, je crois que ouais, il faut être là à un minimum pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Peu importe quand est-ce qu'on commence ou quand est-ce qu'on finit, mais il faut un minimum, bon, pas si bien, d'être ensemble pour qu'on puisse partager nos idées et si jamais il y a un problème, comme ça, je peux parler avec quelqu'un pour que je puisse avancer.
Aussi, c'est très important d'être là juste pour montrer ta motivation et ta envie de bosser et de collaborer avec les autres gens.
Par contre, au cas où le temps mort sera important et on commence à s'ennuyer, là, on peut profiter pour apprendre toujours quelque chose de nouveau.
Toutefois, c'est normal pendant une période intense de demander aux employeurs de rester un petit peu plus, surtout si nous, tant que manager ou encadrant des stages, on est là afin de compléter notre sujet et conclure avec le projet.
Alors le thème de la flexibilité du temps de travail, c'est quelque chose qui est pas mal revenu dans nos ateliers pendant la semaine. Du coup, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de ce thème. Il y a eu pas mal de stages différents avec pas mal de profils différents. Certains qui avaient des horaires fixes, donc qui faisaient du 9h-17h chaque jour, fallait pointer à l'heure du repas, à l'heure de l'arrivée, à l'heure du départ. D'autres qui avaient des horaires plus libres. La flexibilité, c'est aussi s'adapter au temps de travail en fonction de la charge de travail, des fins de projet qui arrivent. Du coup, on disait que c'était assez important dans le choix de son stage, dans le choix de son travail. C'est pour ça que moi, j'ai eu ce thème et qu'on voulait vous le présenter. Voilà.
Et le prochain groupe, ce sera celui qui a travaillé sur la communication des informations entre les acteurs du projet.
Vous avez des problèmes de communication dans votre entreprise ? Pas de souci, faites appel à Joao le génie de la lampe, il va venir vous aider. Voici Daniel, il attend des informations d'un autre département. Alors en attendant, il lit les papiers, il passe le temps comme il peut. Ici par exemple, il se divertit sur les réseaux sociaux.
Est-ce que c'est l'heure de la pause café ?
Georges, le chef de Daniel arrive. Il reproche à son collaborateur son retard. Et là, les choses s'enveniment rapidement. Voici un exemple typique d'un problème de communication. Et si vous faisiez appel à Joao ?
Coucou les potos, vous avez des problèmes de communication ? Le génie est là pour vous aider. Tu as des jambes ? Utilise-les pour marcher et aller demander ce dont tu as besoin pour travailler. Mais encore, c'est tout que le téléphone existe. Elle te peut envoyer des mails, des textos. Téléphone donc à tes collaborateurs pour qu'ils t'aident. Et moi, Daniel, regarde cette réunion. Tu peux aussi trouver ce que tu cherches. Tout est là, Daniel. Toutes les informations dont tu as besoin.
Mais c'est quoi ça? C'est pas ce dont j'ai besoin, je comprends rien. Ce sont quoi ces graphiques compliqués? Cette réunion est vraiment mal organisée. Elle ne met donc pas des infos. Dégage, génie!
pas avancer. Il m'a demandé des choses à faire et il a des délais, mais je ne trouve pas mes informations, je ne sais pas à qui m'adresser. Après, ils me disent d'aller demander, mais je ne sais pas à qui. Je vais dans une réunion, mes infos ne sont pas pour moi, ils ne me servent pas, je ne sais pas quoi faire.
Georgie doit impérativement se remettre en question. En tant que manager, il doit aussi lier tous les acteurs du projet. Présentant Daniel à sa collaboratrice Aïché, qui détient les informations nécessaires à son travail, il lui permet d'être plus efficace. En simplifiant ses explications en réunion, il permet à Daniel de mieux comprendre ce qu'on attend de lui. En expliquant le projet de manière plus globale à Daniel et sa collaboratrice, il leur permet de mieux comprendre comment leur travail s'intègre dans le projet. Mission accomplie, Jao, tu peux rentrer chez toi maintenant.
Ce qu'on a voulu montrer, c'est que, enfin, d'une part, on peut avoir effectivement des problèmes de communication qui peuvent être résolus, donc on a choisi un petit génie pour matérialiser ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques de communication qui peuvent permettre d'améliorer la circulation d'informations dans l'entreprise. Mais on a aussi voulu souligner, comme on devait se mettre du point de vue du manager, que le manager doit toujours se remettre en question aussi pour faire en sorte que ses employés, ses ingénieurs puissent travailler de manière optimale et améliorer leur qualité de vie au travail. Voilà.
Le prochain groupe, c'est celui qui a travaillé sur la répartition du temps et l'équilibre des charges de travail.
Bonjour à tous, je suis Martin Troussard, j'ai travaillé avec mon groupe sur la répartition du temps et l'équilibre des charges de travail. Alors comme on avait vu dans le cas précédent, il pouvait y avoir parfois des problèmes de communication qui pouvaient freiner l'avancement des projets, mais il y a également des problèmes de répartition de charges de travail. Alors pour étudier ce sujet, nous sommes partis d'un cas concret qui est arrivé à un membre de notre groupe qui se trouvait dans une situation où l'été, il avait beaucoup plus de travail dans son entreprise et il devait gérer non seulement le travail, il devait gérer sa propre organisation, mais aussi la relation entre les autres équipes. Donc, à partir de ça, pour trouver des solutions, en fait, on a réfléchi à deux pistes qui pouvaient être explorées. Qu'est-ce que l'individu pouvait faire pour améliorer, sa gestion de la charge de travail, et qu'est-ce que l'organisation pouvait faire? Donc, nous avons identifié quelques pistes, et nous avons fait une vidéo où nous présentons une petite scène, sous un format que j'espère assez original, pour montrer qu'est-ce qui se passe lorsque les gens sont, on présente tout d'abord lorsque les gens peuvent être débordés, ont des problèmes, et ensuite, quelles solutions ils peuvent apporter de leur côté ou du côté du manager, du côté de l'organisation pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Voilà, bon visionnage.
Voici l'histoire de Charles et Anne, deux employés d'un bureau d'études en région parisienne. Depuis 2 semaines, Charles est complètement débordé.
Oh là là! Tous ces dossiers, ces calculs à faire, ça n'arrête pas. Je ne suis pas prêt de rentrer chez moi.
De son côté, Anne a un peu plus de temps pour elle. Forcément, cela crée une situation de déséquilibre et cela pose la question de la répartition du temps et de la charge de travail. Charles se pose plein de questions.
Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, je sais, je pourrais planifier et anticiper. Je pourrais communiquer, je pourrais gérer mieux mes priorités, ou alors je pourrais identifier des gens susceptibles de m'aider.
Grâce aux idées de Charles, la situation s'est vraiment améliorée, les charges sont mieux réparties et le temps de travail équilibré. Mais cela ne serait pas arrivé si, dès le départ, un super manager était intervenu pour planifier le travail dans l'équipe. Par exemple, un super manager a le super pouvoir de confier les tâches aux bonnes personnes selon leurs compétences. Dans cette situation, il s'avère que Anne savait très bien gérer un dossier sur lequel Charles était bloqué. En répartissant le travail d'après les compétences de chacun, le manager a pu rééquilibrer les charges. Pour cela, la communication dans l'équipe est indispensable. Les moments de réunion qui jalonnent le projet permettent d'avoir une vue d'ensemble, de partager les connaissances et favorise la transparence. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a permis de comprendre qu'un bon équilibre des charges de travail améliore la qualité de vie. Vous voyez maintenant que ces problèmes peuvent toujours être résolus, que ce soit du côté des employés ou des managers.
Sujet complètement d'actualité, je vois que c'est le deuxième groupe qui est sur la charge de travail et le temps de travail, c'est les demandes qu'on a aujourd'hui en entreprise d'intervention, c'est plus les risques psychosociaux, c'est la question de la charge et du temps de travail. Et du coup, je voulais vous demander, oui, alors la seule chose qui m'a gênée, c'est la connotation, si je puis dire, sexuée des rôles, c'est-à-dire, bon, de toute façon, il n'y avait que deux choix. Mais c'est l'homme qui avait beaucoup de travail, le garçon, et la fille, voilà, qui rêvassait, etc. Voilà, sur le coup, ça m'a gênée. Voilà. Et le manager était un homme. Voilà. Du coup, ça fait partie aussi des enjeux de qualité de vie au travail que de prendre en compte ce qu'on appelle ces questions de situation de travail des femmes et des hommes dans un objectif, si je puis dire, d'égalité.
Juste comme réponse, en fait, la situation s'était basée sur une expérience que moi j'ai vécue pendant mon stage. Et donc, même si dans la vidéo on avait dit Charles et Anne, en fait, c'était moi en tant que femme qui avait vécu cette situation de beaucoup plus de charges et de travail. Et voilà, donc c'est vraiment, on n'a même pas réfléchi.
Voilà, non, mais finalement, pourquoi vous ne l'avez fait pas de cette manière-là? Et moi, je pense à un exemple où dans un bureau d'études, finalement, toutes les filles tombaient en burn-out, si je puis dire, suite à la visite auprès du médecin du travail. Et ils se sont aperçus, en travaillant avec les managers, que finalement, inconsciemment, les filles prenaient, parce que c'était des jeunes femmes qui arrivaient, les jeunes femmes prenaient plus de projets parce qu'elles se dépêchaient tellement pour faire le travail. Alors, c'était il y a 5-6 ans, pour faire le travail, pour sortir à 5h30, 6h, pour aller récupérer leurs jeunes enfants, que finalement les managers trouvaient qu'elles n'étaient pas très chargées, qu'ils leur proposaient d'autres projets et qu'elles n'osaient pas refuser. Voilà, donc je trouve que c'est très intéressant. Merci.
Et le prochain groupe sera celui qui a travaillé sur le thème « Savoir dire non au travail ».
Bonjour à tout le monde. Je suis Amadou de Sow. Je suis avec mon équipe, on a travaillé sur une thématique savoir dire non. Parce qu'on a remarqué, souvent, imaginez, vous débarquez dans une équipe où vous êtes le seul stagiaire et vous êtes entouré de plusieurs ingénieurs et il y a beaucoup de travail. Et quand vous êtes stagiaire, vous êtes motivé, vous venez de quitter l'école, vous êtes dit, je suis capable de faire tout. Mais à un moment, vous commencez à se rendre compte qu'il y a des débordements. Vous avez des soucis, vous travaillez jusqu'à 20h, 18h. Même, ça arrive que vous travaillez les week-ends. Et donc, dans ces situations, ça peut aller jusqu'à amener des conflits entre vos collaborateurs, votre manager. Et nous, on a fait cette vidéo pour vous illustrer une des situations. Et montrer, il y a une façon de dire non et stop là. Donc, une façon de communiquer avec ses collaborateurs, son manager, pour lui faire savoir que là, j'ai un volume de travail assez important, donc je ne peux pas accepter plus. Et nous, à la fin, on va essayer de proposer quelques solutions. Comment dire d'une manière... Comment parler d'une... La communication est assez importante pour dire à son manager, là, c'est stop, on peut plus, je ne peux pas prendre plus de travail.
Bonjour, Camille, ça va?
Ça va bien.
Oui, ça va bien. Et un client vient d'envoyer ça et il faut lui répondre aujourd'hui. Si tu fais m'aider, ça sera gentil.
Ouais, d'accord.
Merci beaucoup.
Ça va?
Bonjour, ça va, Eva.
Je sais calculer le comment vous voyez pour demain matin. Et alors, tu peux le faire?
D'accord, ok.
Merci.
Ok, d'accord. Bonjour, ça va bien?
Bonjour.
Oui, on a reçu un courrier d'un client, il faut répondre aujourd'hui.
D'accord.
Et voilà. Merci.
Ok, d'ailleurs.
Salut Daniel, ça va?
Ça va et toi?
Est-ce que tu peux vérifier ça? C'est
vite. Bah en fait...
Bah c'est vite fait. Je pense que tu pourrais le faire.
D'accord, ok. Ok, non, ça va.
Salut Gabriel.
Salut.
Tu vas bien?
Ouais.
En fait, je voulais te demander ce que tu as déjà regardé les commentaires du client sur la note qu'on a fait ensemble.
Non, pas encore. Enfin, je peux te donner ça dès mon matin.
Je te demande de regarder parce qu'on a une visioconférence avec lui la semaine prochaine et on va répondre à ses commentaires.
D'accord, ok, je fais tout de suite.
Okay.
Ça marche.
Merci beaucoup.
Salut Gabriel, ça va?
Ça va et toi?
Et ça va, merci. Est-ce que tu as fini ce que je t'avais demandé hier?
Ah ouais, attends. Ah ouais, ah non, je te l'ai fait aujourd'hui.
Oui, s'il te plaît, parce que c'est assez urgent.
D'accord, ok, je le fais tout de suite.
Merci beaucoup.
De rien. Non mais pourquoi je prends cette stage? C'est déjà 19h50, j'ai tout ça à faire, enfin, il y a plein de choses que je sais même pas comment faire. Il y a tout le temps, il y a quelqu'un qui arrive pour me donner un truc à faire, mais je sais pas.
Gabriel,
ouais.
Est-ce que tu peux me calculer l'importance d'une poutre à un Madagascar avec une fourmi qui marche dessus au coucher du soleil? C'est possible?
Ouais, je crois.
Ok. Ciao.
Ciao. Non mais vraiment, j'ai trop de choses à faire, ça va pas du tout quoi. Enfin, faut que je parle à Ricardo, non mais vraiment.
Vas-y.
Non mais, excusez-moi Ricardo, mais regarde tout ça ce que j'ai à faire. J'arrive pas, enfin, il y a trop. Non mais je vais pas m'asseoir. T'as vu tout ce que j'ai à faire? J'ai pas le temps de le faire. Je vais pas le faire, d'accord? Non mais je vais pas le faire, enfin, démerde-toi, enfin, c'est pas moi. Regarde tout ce que j'ai à faire.
On ne peut pas tout accepter.
Et parfois, savoir dire non, c'est une qualité.
Mais il faut savoir le dire.
Montrer de la bonne volonté.
Il faut bien expliquer les raisons pour lesquelles on dit non.
Bonjour, Rodrigo. En fait, je trouve qu'on a bien vu les problèmes, mais la solution, c'est pas, on voit pas trop. C'est savoir dire non, mais en fait, c'est facile à dire, mais après, comment on fait, comment...
On voulait remarquer les problèmes, mais la solution, c'est particulière pour chaque problème. Peut-être qu'améliorer la communication et parler en amont. Par exemple, quand j'étais dans le stage, j'ai eu ce problème et mon patron il m'a dit que je devais envoyer un mail chaque matin en disant qu'est-ce que je devais faire pendant toute la journée. Et comme ça, il pouvait savoir si j'avais beaucoup de charges ou pas trop de charges. Et quand j'étais très chargé, il ne me donnait pas de travail. Et quand je n'avais pas beaucoup de travail, le team il m'utilisait beaucoup. Donc je pense que la communication en amont, et comme toujours, il peut aider beaucoup. Et aussi, ce n'est pas... Quand tu dois dire non, ce n'est pas le message non, c'est aussi pourquoi est-ce que tu ne peux pas le faire. Peut-être que tu n'as pas la compétence ou peut-être que tu as beaucoup de travail et il faut... Oui, on a une limite, oui.
Merci beaucoup.
De rien, Rodrigo.
Hier, j'ai un peu entendu votre discussion. Vous aviez parlé aussi de situations de sécurité, par exemple sur les chantiers, où des gens disent non parce que c'est dangereux. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas retenu ce thème-là et que vous êtes recentré sur la position du stagiaire qui a trop de travail?
Écoute, je pense que le choix s'est fait assez naturellement. C'est qu'on n'avait que 3000 pour la vidéo. On a préféré transmettre un message fort sur le fait que c'était possible de dire non et de l'autoriser. Et je pense que ça suffit plutôt. Enfin, c'est bien je pense qu'on a voulu se concentrer plutôt sur le fait d'autoriser de dire non plutôt que le fait de donner des techniques précises ou des situations précises. Et le fait de montrer que c'était possible quoi, par cette vidéo humoristique.
Et en fait, juste pour complémenter, en fait, quand on parlait justement de la question du chantier, on parlait du droit de la retraite des travailleurs, enfin des employés. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on a un compagnon, par exemple, qui dit je ne travaille pas parce que je ne suis pas en sécurité, en fait, il faut quand même qu'il présente ses arguments. Donc en fait, c'est ce qu'un peu on a essayé de traiter à la fin de la vidéo. C'est en fait, c'est pas dire je le fais pas, mais c'est j'aimerais bien le faire, mais je peux pas le faire pour ces raisons-là. Et en fait, si je pourrais le faire, je le ferais dans ces délais-là. Donc en fait, c'est ça ce qu'on a un peu, on a préféré en fait toucher, enfin plutôt il faut avoir un argument pour dire non quand on l'a, et du coup, de cette façon, toucher un tout petit peu à ce sujet, mais de façon plus généraliste, et qui en fait correspondait plutôt aux stages de l'ensemble du groupe, on a préféré parler plutôt d'une situation un peu plus bureau.
Oui, mais si vous aviez pris cet exemple-là, justement, le droit de retrait, ça correspond, il y a du droit, et il y a de la législation, et ça vous aurait amené à voir que dans la situation qui est du stagiaire qui a trop de travail, il y a aussi du droit du travail. Il faut en profiter, ça ne va pas durer, dans quelques semaines, il n'y en aura plus. Les questions de... Ce n'est pas une question que de bonne volonté, d'attitude, de comportement, mais il y a aussi des recours, il y a aussi des instances, il y a aussi des syndicats qui, à un moment donné, sont des recours. Et il faut aussi que vous compreniez que, voilà, ce n'est pas simplement une attitude psychologique de votre capacité vis-à-vis du chef. Vous êtes dans un cadre social beaucoup plus large et dire non, souvent, c'est quand même instrumenté par toute une histoire du monde du travail.
Et le prochain groupe, ce sera celui qui a travaillé sur les expériences extra-professionnelles. Alors, on a choisi le sujet des activités extra-professionnelles parce qu'on considère que c'est un point assez important dans une entreprise, même s'il est parfois reporté au second plan. Mais nous, on trouve que c'est le genre d'activité qui développe la cohésion et l'épanouissement de chacun dans l'entreprise. On s'est basé chacun sur nos expériences de nos derniers stages, voir ce qui s'est passé, ce qui s'est moins bien passé, des expériences bonnes ou mauvaises, pour sélectionner un panel de ce qu'on considère comme des activités extra-professionnelles. Et du coup, on est fiers de vous présenter le top 5 des activités extra-professionnelles qui améliorent les conditions de vie au travail.
Voilà, donc on vous a d'abord parlé beaucoup des expériences qu'on a vécues pendant le stage et c'est un peu de ça qu'on s'est basé pour choisir ce top 5. Pour les deux premières activités qui sont les pauses déjeuner et les after work, on s'est rendu compte que, par exemple pour un manager, c'était pas forcément quelque chose qui était compliqué à mettre en place, mais que ça vous pouvait vraiment beaucoup changer la perception d'une personne qui arrive dans une entreprise. Et comme dit le manager, il peut favoriser et discuter avec les employés pour qu'eux-mêmes, par exemple, organisent ce genre de choses. Mais ça peut être aussi des choses qu'il organise lui-même. Par exemple, on avait l'idée d'une pause déjeuner chaque semaine d'organiser. Ça peut prendre la forme d'un pique-nique ou d'un barbecue, ou encore de cuisiner tous ensemble puis de manger ensemble. Et ça permet vraiment de la cohésion d'une équipe. Et le but, c'est vraiment qu'il n'y ait personne qui se trouve à l'extérieur, que tout le monde soit inclus grâce à ces activités.
Sur le sport, c'est un élément aussi qui est assez important dans les entreprises quand on l'a vu et nous on l'a expérimenté. Et donc c'est soit des cours en général organisés par les entreprises ou alors des tournois, également des tournois entre entreprises ou entre pôles dans les entreprises, qui permet vachement de mélanger les gens et de mieux se connaître. Et ce qui est utile, comme on l'a vu avant, pour la communication entre équipes, ça aide d'avoir des contacts hors professionnels, enfin en dehors du travail avec les gens pour pouvoir mieux leur demander de l'aide. Sur les aménagements, c'est quelque chose qui est déjà plus compliqué à mettre en place, mais qui marche vachement bien, pas forcément pour la cohésion entre groupes, mais pour soi pouvoir faire, soi-même pouvoir faire autre chose, une pause le midi ou sur une petite pause de son temps de travail, notamment avoir des douches pour pouvoir courir le midi, il y en a beaucoup qui le faisaient, et ça aide vachement à être mieux en forme, et pour certains à être plus efficace après au travail. Et après les team building, c'est ce qui semble être clairement le plus fun, mais qui n'est pas si compliqué que ça à mettre en place, et qui permet en général de mélanger aussi les équipes en forçant à faire des équipes mixtes ou ce genre de choses. On vous a présenté ici un top 5, mais en tant que manager, c'est important d'essayer de faire en sorte qu'il y ait au moins des choses parmi ces 5 groupes. Il y a des choses qui sont très simples à mettre en place, d'autres moins. En général, c'est souvent à l'initiative des employés, mais c'est intéressant en tant que manager de vérifier qu'il y en a, que tout le monde est dans le groupe. Les afterworks, c'est souvent des petits groupes de personnes entre eux qui le font. Pareil pour les repas, et c'est intéressant de poser ça et de faire en sorte que tout le monde puisse y participer et que tout le monde y participe. Et donc c'est des choses assez simples à mettre en place et à surveiller en tant que manager qu'il y en ait.
Et maintenant on appelle le dernier groupe de notre partie, qui est celui qui a travaillé sur l'ambiance et la bonne humeur au travail.
Dans notre groupe, dans la recherche de la qualité de vie dans le travail, on a traité l'ambiance et la bonne entente et comme des instruments qui, à la fin, vont aider à améliorer l'efficacité dans le travail. Donc, tout à l'heure, on va vous montrer quelques situations que quelques-uns d'entre nous ont vécues dans son stage, où on se pose la question de comment améliorer cette bonne entente entre les collègues. Au contraire que le groupe précédent, nous, on va se focaliser dans les cadres intra-travail. On ne va pas parler d'after work, sinon du travail quotidien, de comment certaines attitudes vont nous aider à améliorer cette entente entre les collègues. Donc, on va mettre la vidéo et après, on va la commenter.
on va tous vous parler un peu des expériences qui ont fait en sorte qu'on a créé cette vidéo. Donc pour la première partie, dans mon stage, on s'est rendu compte que juste en revoyant la disposition des bureaux, on est passé d'un stade où chacun s'ennuyait de son côté à une sorte d'émulation de groupe et c'est beaucoup plus facile de parler avec ses collègues, etc.
Après, dans la deuxième partie, on a analysé comment des actions simples, par exemple aller tout ensemble au déjeuner, n'est pas seulement beaucoup plus agréable que manger tout seul, mais il permet aussi d'améliorer l'efficacité au travail, car permet de connaître l'expertise de tous les autres.
Concernant la proximité entre les employés, j'ai fait mon premier stage dans une entreprise, dans un grand groupe où la rigueur était de tutoyer tout le monde, que ce soit les collègues au même niveau hiérarchique que le directeur de la boîte. Ceci a permis deux choses. D'une part, d'avoir une certaine complicité entre les employés et de ne pas avoir une certaine barrière hiérarchique. Et deuxièmement, d'autre part, d'aller plus facilement vers les autres personnes, y compris celles qu'on ne connaissait pas.
La quatrième vidéo, c'était toujours pour cette complicité entre les employés. On s'est rendu compte que le recrutement était hyper important, le fait de rencontrer les gens. Il y a des choses qu'on peut pas prévoir. Il y a des gens avec qui on va bien s'entendre, d'autres moins. Et donc ça, c'était moi une expérience qui m'est arrivée de ne pas rencontrer les gens avec qui j'avais travaillé, mais seulement des DRH et le directeur de la structure. Et la personne avec qui je devais travailler, en fait, c'est pas qu'on s'entendait pas, mais c'est qu'on se comprenait absolument pas. On ne devait pas parler sur le même canal. Donc ça a fait monter vite la tension entre nous. Et puis après, au sein de l'équipe, c'est vraiment pas très bien terminé.
J'ai trouvé très intéressant que vous abordiez ce sujet, pas seulement sous l'angle des affinités personnelles, ou des aptitudes à rencontrer, etc., mais surtout sur la dimension du cadre organisationnel, quand vous avez démarré sur les espaces de travail, sur le cadre hiérarchique, enfin voilà. Nous, on pense que tout ne se résout pas en entreprise à partir du bien, des aptitudes des personnes et du bien-vouloir de chacun. Il y a aussi des cadres managériaux, organisationnels, qui facilitent ou pas la bonne ambiance ou la bonne, au-delà des personnes et de ce qu'elles sont. Merci pour votre vidéo.
Bravo.
Du coup, voilà, on est la deuxième partie des présentations. On va d'abord, il y a un groupe qui va vous parler des problèmes de la barrière de la langue au travail.
Oui, bonjour à tous. En fait, on va parler de ça. Dans les mondes globalisés, il y a de plus en plus des entreprises à l'étranger et des étrangers dans les entreprises. Du coup, à partir de notre stage, on s'est rendu compte de l'importance de barrières de la langue, pas seulement en tant que stagiaire, mais aussi en tant que futur manager. Et la langue est très importante parce que ça nous permet de nous rapprocher, de créer des rapports, et de créer la cohésion dans un groupe. Mais de l'autre côté, ça peut être aussi une manière de discriminer ou il peut aboutir à des malentendus qui peut entraîner des conséquences mauvaises en termes de sécurité ou en termes techniques. Du coup, on s'est basé sur des expériences de notre groupe pour représenter des problèmes qui ont arrivé à propos de la barrière de la langue et des possibles solutions qu'on pourrait mettre en place. Merci.
Aïe. Salut.
Salut.
Tu es nouveau stagiaire ?
Si, oui.
Comment
oui.
Tu t'appelles ?
Je m'appelle Pablo.
D'accord, très bien. Moi, c'est William. Comment ça se passe ici ?
Oui.
Ah, tu parles pas français? You want to speak English instead?
Yes, English is better. Yeah, I'm still learning. I just arrived here in Panama to work in the project with you guys.
Okay, nice.
A few weeks ago, and I'm still learning French. I speak Spanish, so with everyone here is good, but in the company it's a little bit more.
Actually, a few weeks ago I had troubles, like security concerns, with a few workers here.
Bonjour. Oh, despacito.
Ah, je travaille ici. I go to my office here.
Tu casco? Uniforme de trabajo?
Mais je travaille. You speak English?
I work. Non, entiendo.
I need to go.
Tu casco?
No.
What casco? What is tu casco?
No.
That's what happened.
Damn, I'm sorry. Language can be. Even me, I speak Spanish, and that has caused me problems with my boss.
Buenos días, soy la ministra de transportes.
Bonjour, bienvenue dans la société Pompanama. Je suis Antoine Guilmaud, directeur général, et aussi Pablo, qui est stagiaire. Comme vous pouvez le voir, la maquette du projet avec tous les échafaudages qui sont déjà en place, et le raccord qui reste effectué.
Está simplemente explicando cómo es la maqueta del puente y cómo
pero,
está...
¿Pero cuánto?
El ECU. El ECU, 200 millones de euros.
Pablo, yo te llamo.
¿Sí?
A ti.
No. Pues d'abord par moi.
¿Ok?
Bon, merci à tous d'être venus à notre point de départ. Bah, finalement, j'ai appris le français, non? Bah oui, c'était un peu grâce au programme des tandems que j'ai fait avec William, notre stagiaire français. Et aussi, j'ai appris un peu à savoir quelle est ma place dans l'entreprise grâce au programme de parrainage, n'est-ce pas?
Bah, c'est vrai qu'au début, je pensais que tu voulais prendre ma place, hein, vu que tu avais des facilités avec nos clients panaméens. Mais bon, le programme de parrainage nous a permis de mieux nous comprendre et j'en suis ravi.
Oui, c'est vrai que le tandem avec Pablo, c'est quelque chose qui a bien marché, puisque lui parle maintenant quasiment français et moi j'ai appris l'espagnol aussi, donc en 6 mois, c'était une bonne initiative. Après, sur la sécurité, on a pu aussi résoudre nos problèmes.
Oui, c'est très important qu'on ait mis des signes de sécurité dans tous les lieux de travail.
Et c'est vrai que c'était une bonne idée parce que ça a facilité notre communication avec les intervenants étrangers.
Merci. Et bon, juste pour expliquer un peu plus en détail les solutions qu'on a proposées, l'idée c'était de s'inspirer un peu des programmes qui marchent bien à l'école, le programme de tandem, le programme de parrainage. L'entreprise, au lieu de payer des cours avec un professeur, il peut profiter de ses employés interculturels et établir des créneaux où ils puissent faire un tandem parmi des langues différentes. Et les parrainages, mettre en lien les stagiaires ou les gens qui viennent d'arriver à l'entreprise avec quelqu'un de l'entreprise qui est peut-être pas forcément à son maître des stages.
Je trouve que cette idée du binôme, du tandem, c'est quelque chose qu'on voit en entreprise, même au niveau de postes managériaux, c'est que des expériences, des expérimentations, mais ça permet, les postes de manager sont tellement des postes à forte densité de travail, que par exemple le fait d'être à deux responsables, co-responsables, c'est-à-dire avec le même mail, par exemple, co-responsables d'un service, d'un département, c'est des solutions d'organisation de travail qu'on commence à voir apparaître pour faire face au fait que l'un peut être défaillant, l'un peut être en congé, l'un peut être... Voilà. Donc je trouve que c'est intéressant ce que vous avez expérimenté en stage. En fait, ça peut être aussi une solution en organisation... en entreprise.
Maintenant, j'appelle le premier groupe qui a traité de savoir dire non en entreprise.
Voilà. Bonjour. Donc, dans notre groupe, nous avons traité un problème que nous avons déjà vu ce matin. Si ceci témoigne de quelque chose, c'est que plusieurs d'entre nous ont été confrontés à ce problème dans leur stage. En fait, lorsqu'on est stagiaire, on est généralement un chercheur d'emploi. Du coup, on a tendance à chercher à impressionner notre tuteur, à faire tout pour être embauché à l'issue de notre stage. Du coup, on dit tout le temps oui, quoi que ce soit notre charge de travail, quelle que soit la situation, que ce soit la fin de journée ou bien le week-end, on dit oui. On n'ose jamais dire non, de peur de nuire à notre réputation ou bien de mettre en cause notre motivation. Donc, je vous laisse avec la vidéo que nous avons compilée hier.
Voilà, alors nous, ce qu'on voulait développer dans cette vidéo, c'est que le fait de savoir dire non, ou de ne pas savoir dire non, c'est clairement un problème de communication. Et comme tout problème de communication dans les entreprises, il peut avoir des conséquences graves, typiquement la surcharge de travail là. Donc ce qu'on a voulu montrer ici, c'est vraiment la différence entre les cadres de référence qu'il y a dans l'entreprise, entre chacun des intervenants. Et typiquement, si comme Afaf l'a dit, pour le stagiaire, c'est montrer sa motivation, montrer qu'on est volontaire et qu'on veut faire plein de choses. Pour le patron, c'est d'avoir un bon rendu pour le client. Et celui-ci n'a pas du tout la vision sur la personne qui va réaliser le travail. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était la solution, c'était de mettre les gens devant leurs responsabilités, et notamment le tuteur en rose sur la vidéo, de lui montrer que le travail ne pourra pas être de qualité et que finalement c'est lui-même qui risque de se faire disputer à la fin. Voilà, donc mettre les gens devant leurs responsabilités dans l'entreprise.
Du coup, je vais appeler un prochain groupe, la maîtrise de la charge de travail.
Donc on a abordé le sujet de la maîtrise de la charge de travail. Et c'est ce qu'on a travaillé un peu, c'est dans le sens large de l'entreprise et pas seulement du point de vue de l'employé, quand lui-même, il va gérer sa charge de travail. Et pour vous mettre un peu dans le contexte et pour présenter un peu la vidéo, dans un premier temps, on voit une situation un peu courante dans certaines des entreprises. Et un peu dans un deuxième temps, on fait une analyse pour que vous voyez, du point de vue des managers, comment on peut réagir pour mieux gérer la charge de travail.
Salut l'équipe. Salut Vida. Salut. Il faut que tu traduises tout ça pour demain.
Non mais je veux pas, je suis trop chargé déjà.
Demain, là, à l'FTV.
Non, je suis désolé.
Salut.
Je suis très chargé.
Pouvez-vous faire tous ces calculs pour ce soir?
Ça c'est un peu compliqué, il y a des présentations à faire.
S'il vous plaît, je suis sûr. Laïa, il faut que tu lises tous ces papiers et tu les mettes
dans l'ordre. Maintenant, je suis vraiment en train de travailler ça.
Oui, moi aussi, on est tous très chargés.
Non. Je t'ai dit que ça marche pas parce qu'on a énormément de travail. Écoute, la remise du projet à Rennes, c'est avancé une semaine. Oui, il faut que vous terminez. Attends. Non, ça, je t'ai dit que j'étais rappelé tout le temps. Et après, il faut que vous terminez les enquêtes et tu me vois aussi les formulaires. Allez, ciao.
Ce
soir.
Ouf. C'est vrai, vous avez vu, on a plein de choses à faire et ça fait déjà 3 nuits qu'on reste ici.
Anniversaire, c'était ma femme.
En plus, c'est l'anniversaire de ta femme aujourd'hui.
Ouais, c'est ça, mais il faut travailler.
Bon, encore oui, mais il faut qu'ils arrêtent parce qu'on ne peut pas rester toute notre vie ici.
Ouais, tout à fait.
Mais vous voyez quand même, bon, après, il travaille aussi beaucoup. On arrive et il est déjà là et quand on parle, il est encore là.
Ouais, ça c'est vrai. Bon, comme vous le savez, on est vraiment débordé, il y a énormément de travail. Moi, personnellement, je n'en peux plus, donc je vais embaucher quelqu'un.
Bah oui, mais tu sais bien qu'on ne peut pas embaucher. On a beaucoup d'affaires, on a beaucoup de travail, mais on n'a pas les moyens matériels d'accueillir plus de personnes.
Bah oui, après, est-ce que tu es sûr que ce n'est pas une histoire de délégation des tâches? Parce que moi, je trouve que c'est très important de bien identifier les capacités de nos employés et bien déléguer les tâches qui correspondent à leur capacité, leur personnalité. Par exemple, moi j'ai une de mes collaborateurs qui il est très très rapide sur les projets, mais les produits c'est terriblement bruyant. Mais dès que j'ai une tâche qui ne demande pas trop de détails et qui sont vraiment intermédiaires, la qualité c'est pas très très important, moi je les mets dessus et ça marche très très bien, et comme ça moi j'ai réussi à délivrer les tâches quoi.
Et puis en plus de la délégation, on a aussi un problème avec la remontée de l'information. Donc on soit nous-mêmes conscients de la charge de travail de nos collaborateurs, de leur état d'avancement, des difficultés qu'ils rencontrent par rapport à leur mission. Il y a un véritable enjeu de communication entre ces différents niveaux hiérarchiques si on veut éviter de les surcharger. Enfin bon, On dit ça, mais on a de l'activité quand même. Ça pourrait être pire. Imagine ce que ce serait si on avait des salariés qui s'ennuient.
Bon, quand vous avez vu, on a traité un peu la question du point de vue de nous en tant que junior manager, car c'est un peu la question à répondre. Donc, on a vu qu'en fait, la solution, enfin, dans les réunions avec le manager, c'était pas unique ni facile. C'est un peu nous ce qu'on a ressenti quand on en discutait. En fait, on était en train de chercher une solution un peu plus globale, mais on se dit que du fait que le problème, ça reste une chose de relationnel, que c'est vraiment un problème entre différentes personnes, de ces jeux de rôle, ces personnalités, les interactions, etc. Plutôt qu'une solution, le problème c'était assez large, donc il fallait plutôt faire attention, avoir un package de solutions, comme avoir de l'anticipation, donc bien savoir la charge qu'on va avoir par rapport à ce que les équipes qu'on a, organisation, méthodologie. Connaître bien nos collaborateurs, comme ça a été ébauché, transmission de l'information pour voir si les tâches sont bien reparties, etc., délégation, etc. Donc c'est un peu la conclusion qu'on a tous été d'accord. Quoi. Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui, j'ai trouvé intéressant la lecture que vous avez, parce qu'il y a, d'une certaine manière, on sort du bureau d'études de vos collègues, on voit d'une part qu'il y a un collectif, et que si les gens commencent à râler sur la charge de travail, ça peut ouvrir des choses. Et puis on voit qu'il y a toute une chaîne hiérarchique, il y a des contraintes économiques, etc. Et donc, vous ne nous dites pas comment il faut faire, mais vous avez bien montré voilà comment ce problème, il est pas simplement à l'échelle du bureau et de la bonne volonté des uns et des autres, c'est un problème assez fondamental de toute l'entreprise. Merci.
Merci.
Et du coup, j'appelle le groupe qui a travaillé sur l'ennui au travail.
Bonjour. Donc, notre groupe composé de moi-même, Idriss, Agnieszka, Pablo, Youssef, Antoine et Charlie, avons choisi comme sujet l'ennui au travail, puisque c'est un problème qui est assez récurrent chez les stagiaires, voire même les employés. Les raisons sont multiples et ça peut être dû au fait à une mauvaise communication entre le stagiaire et son supérieur hiérarchique, tout comme ça peut être dû à une mauvaise gestion et organisation de son travail au cours de sa journée. Chose qui peut engendrer plusieurs conséquences assez lourdes. Et donc, comme le sujet est assez large, nous avons décidé de le traiter sous un certain angle, d'une manière assez parodique, en espérant que cela vous plaise. Voilà, bon visionnage. Thank you.
Du coup, est-ce que vous avez une solution pour cet ennui au travail? Parce que là, le problème, c'est que du coup, il a du travail à la fin de sa journée, ça fait un peu un rythme décalé.
Oui, en fait, la vidéo suggère qu'il faut mieux organiser le temps de travail et que le manager doit mieux répartir les charges pour éviter les moments de creux, que ce soit au cours de la journée ou même sur une plus longue période. Éviter d'un coup d'avoir une surcharge de travail à un moment qui est peut-être moins opportun. Voilà.
Par exemple, pendant mon stage, mon manager m'a donné des tâches qui n'étaient pas urgentes, mais que je savais qu'il faut les faire un jour. Du coup, s'il n'y avait rien d'urgent dans ce moment-là, j'avais déjà des tâches à faire. Et ça, c'était une vraiment bonne solution.
Et finalement, il y a des fois où tu n'es pas vraiment bien encadré. Donc, du coup, ton manager, il n'a pas trop de temps pour toi. Et du coup, à la fin, il trouve un moment pour toi à la fin de la journée. Il a eu des réunions avant. Et du coup, le moment où tu reçois la tâche ou la mission, c'est à la fin. Donc, du coup, on pense que l'implémentation des systèmes de transmission des informations, des systèmes de partage, des projets de données, c'est important. Et on pense que c'est une façon de résoudre ce type de problématiques.
Et je vais appeler le groupe qui a travaillé sur les open space.
Donc la vidéo s'intitule Open Space, fausse bonne idée. Donc voilà, pour que vous puissiez mieux l'apprécier.
Bonjour, je suis Adrien, le nouveau stagiaire.
Bonjour Adrien, bienvenue dans la boîte.
Merci.
Alors j'espère que ça va te plaire, on travaille en open space. Tu vas voir, c'est vraiment bien pour la communication. On travaille tous ensemble et en plus tu seras vraiment stimulé dans ton travail de voir tous ces gens travailler autour de toi.
Ah, ça a l'air génial.
Allez, au travail, allons-y. Bonjour.
Salut Louis. Dis-moi Alex, le dossier F37, il y avait un mot de passe, je m'en souviens plus du tout.
Non, il y a une variable spéciale pour l'équation, et je sais plus ce que c'est, je crois que Tom il a fait.
Ouais, je crois Arnaud, je crois que si tu prends C, il y a le 42, c'est parfait, je crois.
Je vais tenter, attends. Ah, oh, c'était ça. Génial, voilà.
Ça égale 42. Everything is awesome. Everything is...
Ça marche.
Salut Nico, ça va?
Ça va et toi?
Ouais, j'ai vu ton dernier mail, ouais. Écoute, c'est pas mal. Juste le dernier truc, le graphique que tu as montré là, c'est quoi?
Bah en fait, j'ai juste déplacé le repère ici, donc ça change un peu les valeurs, c'est pour ça que c'est un peu déplacé, c'est tout.
Okay,
ça va?
Ok, merci.
À tout. Elle est où ma souris?
Je sais pas, j'étais pas là moi.
Quelqu'un a vu ma souris?
J'ai tendance à bloquer. Ah, j'ai tendance à bloquer.
Est-ce que tu peux descendre? Ouais. Merci.
J'ai tendance à bloquer.
Viens.
Ça, c'est moi, ça. Tu l'as, tu sais, le message.
Un message. Est-ce que quelqu'un a vu mon clavier?
Un message.
Ok, désolé.
Du coup, levez la main un peu ceux qui ont déjà travaillé dans leur stage en open space. Pour voir. Donc ça fait beaucoup d'entre vous. Est-ce que, enfin, levez la main ceux qui parmi vous se sont reconnus dans cette vidéo, enfin, ont reconnu des situations qu'ils ont vécues. D'accord. Donc en fait, l'open space, enfin, c'est un concept qui s'est développé d'abord aux États-Unis dans les années 50 et après il est revenu en Europe dans les années 80. Et ça a eu beaucoup de succès, mais finalement maintenant c'est un concept qui est un peu remis en question parce que, enfin, comme on le voit dans les situations donc, qui ont été évoquées dans la vidéo, qui sont un peu tirés de nos expériences personnelles, on s'est rendu compte que l'accumulation de petits facteurs qui sont un petit peu désagréables, à la fin, ça rend les conditions de travail assez pénibles. Et en fait, dans un open space, on partage tout. On partage le son, les odeurs du repas de son voisin, et puis aussi les problèmes de chauffage, le clim, les gens qui ont chaud, qui ont froid. Voilà. Et puis, donc, c'est aussi, en général, ça rend
ça donne une atmosphère un peu moins productive de travail, puisque quand on a besoin de se concentrer, on préfère être seul. Et donc on rencontre parfois des problèmes où des gens qui ont besoin de s'isoler vont s'isoler plutôt dans les espaces de détente, ce qui du coup crée des conflits, parce qu'après, quand on va aller se détendre, ben, on n'a plus d'espace pour aller se détendre. Et donc, on a vu aussi une scène où finalement, au lieu de favoriser la communication, l'open space la rend plus difficile, puisque pour limiter le bruit, on arrête de se parler totalement.
Du coup, la vidéo était plus pour vous interpeller. Maintenant, on peut donner des petites solutions qu'on a trouvées, parce que c'est un problème en fait, qui est assez récurrent maintenant. Enfin, on en parle pas mal, je crois, en entreprise. Donc, la première innovation, c'est le flex office. En gros, c'est l'idée de cloisonner un tout petit peu plus, d'avoir des espaces qui sont un peu plus restreints que les grands floors avec des bureaux partout. La deuxième solution, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais certains bureaux longs, c'est des bulles d'intimité. Enfin, on appelle ça vraiment des bulles, c'est des espaces en verre où les gens y vont et créent vraiment une atmosphère. Enfin, tout est en... On sait visible, mais en fait, on peut quand même se concentrer parce qu'il n'y a pas de bruit, etc. Et enfin, il y a tout un aspect régulation. Par exemple, chez Danone, on n'a pas le droit de manger et de boire dans les open space. Donc, il peut y avoir des solutions et je pense que c'est des choses de groupe et des règles à mettre en œuvre dans l'entreprise. Donc, elles n'existent pas partout, mais c'est aux employés de faire remonter l'information et ça peut se faire. Merci.
Je ne sais pas s'il y a des questions.
Oui, moi j'aimerais rapprocher cet exposé d'un exposé précédent qui nous avait présenté l'open space comme la solution idéale à la communication. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions qu'on a immédiatement et open space a été à une époque une solution et on découvre après que cette solution résout des problèmes. Ça résout des problèmes économiques en l'occurrence parce qu'un open space on met beaucoup plus de monde dans beaucoup moins d'espace, mais que la solution communication à l'usure on s'aperçoit qu'on ne la trouve pas et les solutions qui sont proposées là ne sont pas des solutions magiques qui résolvent tout mais des tentatives de contourner certains problèmes sur les odeurs de repas, sur il y a certains moments on veut téléphoner ça gêne tout le monde, comment est-ce qu'on gère le téléphone. Et donc ce n'est pas une solution parfaite, mais c'est des petites tentatives d'amélioration. Et je pense que souvent sur ces questions de conditions de travail, etc., on a plus des formes de voilà, il y a un problème, il existe et on va essayer de l'améliorer plutôt que la solution parfaite auquel on a rêvé il y a 10-15 ans, qui était l'open space.
Nous, on pense que la solution, c'est un peu un hybride de tout ce qui peut exister, parce que enfin, tout a des avantages et des inconvénients.
Et puis, l'open space, c'est bien quand c'est en petite équipe. Enfin, une dizaine de personnes, ça passe encore, mais moi, par exemple, j'étais aux États-Unis et dans mon étage, il y avait peut-être 50 personnes. Donc, c'est quand même pas pareil. Donc, voilà, donc, quand c'est en petit format, ça reste une solution assez intéressante. À plus grande échelle, ça pose beaucoup de problèmes.
Je vais appeler les personnes que le deuxième groupe qui a travaillé sur Savoir dire non.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va présenter la situation dans laquelle on pourrait être obligé à dire non ou oui à des situations professionnelles. Et comme stagiaire, on est toujours mis en face à la situation où on a des collègues ou notre chef qui nous propose de travailler et parfois, on a la honte de dire non à des propositions de travail parce qu'on pense que ce n'est pas trop gentil, qu'on est debout, on doit faire une bonne impression. Et généralement, on pense que c'est perçu comme négatif de dire non à des propositions. Dans notre vidéo, on va vous montrer deux cas, l'un dans lequel le stagiaire il dit oui à une proposition à laquelle il devrait dire non. Et il y a des mauvaises conséquences sur son travail et sur ses relations professionnelles. Et le deuxième cas dans lequel le stagiaire, il a le courage de dire non et sa réaction, elle est bien appréciée par son chef. Et voilà la vidéo.
Non.
Je vous présente Andrea, le stagiaire.
Et voilà son chef. On l'appellera chef. Une journée, il arrive. Andrea, demain, je ne serai pas ici. J'ai une réunion, mais on a beaucoup de boulot. Tu pourrais faire ça pour moi? C'est important que je sois fini quand je reviens. Quand il est parti, un collègue du bureau arrive la voir. Il ne travaille pas avec elle. Il n'est même pas dans son département. Andrea, j'ai beaucoup de travail. Tu pourrais faire ça pour moi? C'est important. Et dis pas à ton chef, il va s'énerver. Andrea accepte. Le lendemain, elle commence à travailler sur le boulot de son collègue pour le vite faire et après faire celui de son chef, mais elle n'a pas le temps. Ça prend plus de temps qu'il croyait. Le lendemain, quand son chef arrive, elle n'a pas fini son boulot et en plus, elle ne peut rien dire sur ce qu'elle a fait. Il faut qu'elle cache tout. Andrea, tu as fini le travail que je t'avais donné hier? Andrea dit non, c'était trop difficile, c'était trop de travail, j'ai pas pu finir. Il s'énerve, il savait que c'était pas trop, c'était pas si difficile que ça. En plus, il trouve le travail du collègue en bas de la table. C'est quoi ça, Andrea? Andrea explique tout à son chef et il comprend qu'elle a menti. Il s'énerve encore plus. Andrea, tu as même pas fini le travail, sinon qu'en plus, et c'est encore pire, tu m'as menti.
Antoine est un stagiaire dans un bureau d'études structure. Un jour, un de ses collègues lui demande de vérifier des calculs pour un pergola en disant qu'il s'agissait d'un projet de l'entreprise pour une crèche. Vu qu'il était chargé avec des autres projets, il accepte, mais lui dit qu'il est charrette et qu'il aurait donné priorité au projet sur lequel il était en train de travailler. En ayant un petit peu de temps, vu qu'il était dans l'attente des nouveaux plans des architectes, il commence quand même à travailler sur le pergola et la remarque qu'il ne ressemblait pas à une crèche mais plutôt à une maison. Une fois reçu les nouveaux plans, il arrête de bosser sur les pergolas et reprend à travailler sur les projets attribués par son chef. Après le week-end, le lundi, le collègue lui demande son état d'avancement sur les pergolas pour savoir s'il était terminé pour le soir. Le stagiaire répond que ce n'était pas possible en étant trop occupé et lui dit de demander au responsable du poste structure qui connaît la charge de travail de chaque ingénieur pour savoir qu'il était disponible. À ce moment-là, le collègue lui dit qu'il s'agit d'un projet personnel et pas de l'entreprise. Le stagiaire donc refuse de faire le travail en disant qu'il est là pour travailler sur des projets d'entreprise et pas pour des projets personnels. Si on analyse les deux situations, dire oui a amené la stagiaire à ne pas terminer son travail et à mentir au chef, ce qui a donné une très mauvaise image d'elle. Dans l'autre cas, si le stagiaire avait accepté, les autres collègues lui auraient pu demander des choses personnelles. On conclut que pour éviter ces situations, dans les entreprises, il faut un responsable qui divise le travail et auquel s'adresser pour connaître la charge de travail de chaque ingénieur et éviter des situations inconfortables.
Juste pour avoir une idée, parce que c'est quand même un sujet qui est arrivé 3 fois, est-ce qu'il y a beaucoup de gens, enfin, levez la main, les personnes qui ont, se sont retrouvées face à ce genre de situation? Parce que... je vais appeler le groupe de temps de présence, temps de travail.
Alors bonjour à tous, je suis Thomas Bertrand, et on a travaillé donc avec mon groupe sur encore un sujet sur le temps de travail finalement, mais nous on s'est intéressé à autre chose de plus peut-être même culturel finalement. C'est que on a tous été, je pense, confrontés à la situation, en tout cas la plupart d'entre nous, de finir les tâches qu'on s'était prévues dans la journée avant, et là, c'est là où je mets des grands guillemets, l'heure. C'est-à-dire que on est souvent dans une situation, dans nos entreprises, il y a une heure où, avant laquelle on ne peut pas partir du boulot décemment, c'est-à-dire souvent 18h, pour d'autres entreprises ça va être 19h, pour d'autres même plus tard, et il faut absolument s'occuper jusqu'à cette heure-ci, sinon on ne peut pas sortir. Et c'est très intéressant de voir ça, c'est que finalement, on joue plus sur l'efficacité des personnes, on joue plus sur le fait que quelqu'un travaille bien ou plus vite que quelqu'un d'autre, mais on travaille vraiment sur il doit rester tant de temps au travail, sinon il ne travaille pas bien. C'est culturellement quelque chose qui est très français, on a pu s'en apercevoir, ceux qui ont fait des stages dans les milieux anglo-saxons, ils ont souvent vu des choses différentes. Et donc nous, finalement, on s'est attaché dans notre vidéo à la situation où finalement donc un collaborateur d'une entreprise finit son travail plus tôt. D'abord, il va s'imaginer qu'est-ce qu'il pourrait faire et voir que aujourd'hui culturellement, on a l'impression qu'on n'a pas de solution intelligente pour comment s'occuper quand on finit tôt. Et derrière, on essaie de donner une petite ouverture sur un manager. Comment est-ce que lui, il va pouvoir s'imaginer quoi faire vis-à-vis de cet employé? Et se donner la possibilité de le laisser partir, tout simplement, ou bien de lui donner les choses plus intéressantes, finalement, pour éviter cette situation qui nous arrive trop souvent de s'occuper pour rien faire jusqu'à une certaine heure où on se dit c'est l'heure de partir. Voilà, bon visionnage.
Il est 16h. Bob vient de finir sa journée et toutes ses tâches. Il n'a donc plus rien et reste oisif devant son ordinateur. Que peut-il donc faire ?
Je pourrais sortir. Mais si le manager s'en aperçoit, je vais me faire sermonner. Autre solution, je pourrais aller demander à la manager de sortir. Mais à tous les coups, elle va s'énerver et elle va me donner une montagne de travail. Pour ne pas l'énerver, je pourrais aller lui demander du travail. À tous les coups, je vais finir à 23h.
En revenant à la réalité, Bob se rend compte qu'aucune de ses options n'était bénéfique et choisit donc de rester, quitte à s'ennuyer devant son ordinateur. Alice, la manager de Bob, entre dans la pièce et se rend compte que Bob est désœuvré. Que peut-elle faire face à cette situation ?
Il est 16h, mais j'ai plus rien à lui donner. Ça sert à rien de lui demander de rester. Il a fini sa tâche, je lui proposais d'aider sur ce nouveau projet, mais faut pas que ça en fasse trop.
Après réflexion, le manager va voir le collaborateur, ils discutent ensemble et le manager peut ainsi réaménager le plan de charge du collaborateur.
Je trouve très intéressant l'approche, mais je voulais vous poser la question par rapport à cette entreprise où tu peux travailler que le temps que tu en as besoin et que quand tu as fini ton travail, tu pars chez toi et le lendemain, tu rentres. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Tu es en train de me demander, est-ce que l'entreprise idéale, c'est une où tu as tes tâches, quand tu as fini, tu t'en vas ?
Non, je vous posais la question si vous avez abordé ce sujet et qu'est-ce que vous en pensez des entreprises où en fait... Tu n'es pas obligé à rester jusqu'à la fin de la journée et quand tu as fini ta tâche, tu pars.
Je vais peut-être répondre à côté de la plaque, du coup, parce que je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question. En fait, la manière dont on a voulu présenter un peu le truc du côté du manager, c'est que déjà, il y a sûrement un problème de communication au départ. C'est que le collaborateur, lui, je ne sais pas si vous avez compris comment on l'a tourné, le collaborateur, à aucun moment, il se dit « le manager va avoir la bonne manière de me parler ». C'est-à-dire que si jamais je vais le voir, il va m'en mettre plein la gueule. Et si jamais je pars, je risque de me faire détruire parce que je suis parti plus tôt. Et à l'inverse, le manager, lui, il ne sait pas forcément quel réflexe il faut avoir vis-à-vis de cet employé. Donc nous, la manière dont on a réfléchi à cette question, c'est de se dire « finalement, quelqu'un qui finit plus tôt, est-ce que c'est mal ?» Et qu'est-ce que je peux faire de cette personne ? Parce que si jamais on dit aux personnes, quand vous avez fini votre travail, vous pouvez partir à chaque fois, qu'il soit 14h, midi, qu'il soit 16h ou même 9h du matin parce qu'ils n'ont rien à faire dans la journée, est-ce que c'est aussi la bonne manière de s'adresser à des gens, étant donné que on n'est pas sûr que les charges de travail soient égales pour tout le monde, et on risque peut-être aussi de les encourager à bâcler une tâche juste parce qu'ils veulent partir. Finalement, nous, ce qu'on dit, c'est il faut qu'on communique avec un collaborateur, savoir pourquoi est-ce qu'il a fini plus tôt. Est-ce qu'il a fini plus tôt parce que, en effet, il a bien fait toutes ses tâches, qu'il a été efficace et que finalement, la charge de travail qu'on lui donne, elle n'est pas adaptée à ses qualités. Et donc finalement, c'est un peu la notion qu'on disait, si on doit lui donner un autre projet, autant l'encourager, lui donner quelque chose de plus intéressant sur lequel il va peut-être avoir plus d'apport, il va peut-être y passer plus de temps, mais à la limite, c'est récompensant pour tout le monde et c'est bon pour l'entreprise. Et à côté de ça, en revanche, il ne faut pas être dans une logique où on veut occuper quelqu'un pour occuper quelqu'un. Je sais pas si je suis pas clair du tout, j'ai l'impression, en fait, finalement, dans ma réponse. Mais la morale qu'on veut donner, c'est ça. C'est justement, quand quelqu'un est plus occupé, le mieux, c'est de savoir pourquoi et de savoir ce qu'il attend, finalement, aussi de nous. De pas l'occuper juste pour l'occuper, mais d'essayer de le faire grandir dans l'entreprise. Et si jamais il avance plus vite que les autres, ça veut dire que sûrement, il va être appelé à faire des choses plus intéressantes derrière et donc de servir pour tout le monde.
Oui, vous abordez une question qui est très intéressante. Vous la ramenez une fois de plus à la question de la charge de travail, répartition, etc. Au début, vous avez posé une question qui était vraiment intéressante, qui était une question culturelle. C'est-à-dire qu'il y a des milieux professionnels où il faut montrer qu'on est occupé, qu'on est chargé de travail, se promener dans les couloirs en ayant toujours l'impression d'être surchargé, participer à toutes les réunions de la direction de l'enseignement pour montrer qu'on participe bien au projet de l'école. Voilà. Et donc, il y a des cultures de travail où il y a une espèce de mise en scène continuelle de « Ah, je suis débordé, je suis chargé, etc. » Et il y a des cultures de travail où, au fond, on va plus regarder « Est-ce qu'il a fait son boulot, etc. » Et je pense que c'est une interrogation qu'on peut avoir sur, et on est plutôt, nous, dans des cultures où on a cette espèce de mise en scène, comment, de notre côté, on peut essayer de faire bouger les choses en disant « Attendez, ça va, le boulot, je l'ai fait, et c'est pas parce que je montre que je suis là, parce que je montre que je reste très tard le soir, même si je fais semblant de travailler, que je travaille mieux. » Alors, c'est du travail de très long terme, parce que c'est de la culture, mais je pense que c'est vraiment une question vraiment importante, et je pense que vous allez être confronté, et c'est une de vos chances, de travailler dans des univers très différents, et voilà.
Mais là-dessus, finalement, c'est un peu l'ouverture qu'on a essayé de donner. Il y a un moment où, dans la vidéo, quand la personne reste, mais c'est vrai que c'était pas très visible, finalement, parce que c'était rapide, on voulait aussi montrer le poids social qu'il y a autour, c'est-à-dire que les autres personnes regardent la personne qui travaille pas en disant, lui, il faut rien, alors que nous, on travaille, etc. Et il y a ce côté aussi un peu de jeu dans une entreprise de, je veux montrer que je fais des choses. C'est une question qui est très culturelle, en effet, et je pense que la première chose, c'est que nous, futurs managers, on en prenne conscience. Et qu'on arrive à voir nos employés non pas pour ce qu'ils nous montrent, mais pour ce qu'ils nous rendent, et que nous, on arrive à leur montrer qu'on sait comment ils avancent, parce que je pense que c'est important de reconnaître les qualités d'une personne et surtout le fait qu'ils servent à notre entreprise. Et donc finalement, on, avec cette démarche, on va peut-être réussir petit à petit à montrer aux gens que ce qui nous intéresse, c'est pas tant le fait qu'ils soient partis à 23h la veille, et qu'il nous ait donné une note de taxi en disant « T'inquiète pas, c'est moi qui l'ai payé parce que je le fais ça pour l'entreprise et pour la gloire. » Mais plutôt de récompenser quelqu'un qui est capable de venir nous dire « Écoute, j'ai tout fait. Soit je m'en vais maintenant parce que j'ai des choses à faire, soit je veux bien qu'on travaille sur ce projet-là que j'ai vu qui était intéressant pour l'entreprise. » Et donc finalement, de grandir tous ensemble.
Certaines entreprises, c'est qu'en gros, vous avez une tâche de fond, comme disait madame derrière moi tout à l'heure, et qu'au jour le jour, vous avez aussi du travail. Et donc, du coup, qu'en fait, il y a des priorités dans le travail et qu'il n'y ait pas la base, ce soit pas ne rien faire.
Le souci, c'est que les entreprises dont tu parles là maintenant, enfin, ce n'est pas le cas justement de toutes les entreprises. Enfin, moi, personnellement, je sais que ce soit dans mon premier ou dans mon deuxième stage, il n'y avait pas des tâches de fond. Et du coup, il y a des moments où je me suis retrouvée à rien avoir à faire et... Et c'était mal vu que je parte parce qu'il fallait que je fasse tel horaire.
Justement, pour moi, la réflexion de manager aussi, elle doit être sur les tâches de fond parce qu'il faut trouver des trucs intéressants à faire. Souvent, c'est des trucs un peu structurels, du style, remettre en forme les présentations marketing, des trucs comme ça, mais tu peux trouver autre chose qui sont pas mal.
Après, il y a la question de donner une tâche qui est intéressante pour la personne. Réorganiser de façon générale quelque chose ou autre chose, alors que c'est pas du tout pour ça qu'il est là. Il faut trouver des tâches de fond qui soient intéressantes et qui soient justifiées.
Je pense, Romain, là-dessus, qu'il y a en effet ça, et puis surtout, ça dépend beaucoup des entreprises et des milieux. Il y a toujours, de toute façon, quand on dit on a fini ses tâches, ça veut pas forcément dire qu'on a fait 100% de tout ce qu'on nous a demandé. C'est-à-dire que pour aujourd'hui, l'avancement dans lequel on est arrivé est celui qui est suffisant par rapport à ce qu'on s'est fixé comme objectif. Je pense qu'on n'est pas non plus obligé de rester jusqu'à 23h parce qu'on n'a pas fait 100% du projet qu'on avait prévu de finir dans 3 semaines. Quoi. Donc le problème, il ne se pose pas forcément sur une question de... Oui, mais ce que je voulais te dire là-dedans, c'est que d'avoir des tâches de fond, des trucs qui soient continus, etc., pour... Le problème culturel qu'on est en train d'essayer de soulever, c'est pas tant le fait que la personne n'ait pas de quoi s'occuper, c'est le fait que la personne veuille absolument s'occuper jusqu'à. Je sais pas si tu vois la question que je pose, elle est assez différente. C'est que de donner à un employé de quoi s'occuper toute la journée s'il faut, c'est autre chose que lui faire comprendre que s'il part pas après 18h, c'est un mauvais employé.
Du coup, j'appelle le dernier groupe la difficulté de maintenir des relations professionnelles, enfin, strictement professionnelles, c'est ça ? Au travail.
Donc, bonjour à tous. Donc, je rappelle le sujet, la difficulté de maintenir des relations strictement professionnelles au sein du travail. Bon, au risque de décevoir certains parmi vous qui avaient une vision bien précise de ce qu'on allait traiter, l'angle sous lequel nous avons décidé de traiter la question avec mes camarades, Maxime, Guillermé, Baptiste, Thiago, El Hussein et moi-même, c'est la question du bon management. Donc là, on va vous présenter un manager qui a décidé de briser la glace et d'instaurer des relations cordiales avec un de ses employés et nous vous laissons découvrir ce qui va lui arriver. Thank you. Alors évidemment, nous n'avons pas la prétention de savoir ce qu'est un bon management. Ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est un avis qui a émergé hier suite à nos discussions. On a été plutôt unanime sur le fait de se dire qu'un bon management passerait peut-être par une sorte d'équilibre entre une gestion tyrannique, merveilleusement interprétée par Al-Hussein, et finalement un laxisme à outrance qui pourrait finalement briser la crédibilité du manager. Et finalement, comme ça a été si bien souligné par les groupes précédents, cet équilibre s'articulerait autour d'une très très bonne communication, ce qu'on a essayé de mettre en œuvre vers la fin de la vidéo. Donc, je vous remercie à tous.
Même comparaison que tout à l'heure sur l'open space, des groupes avant ont présenté le fait d'organiser un barbecue comme la panacée de la communication, etc. Et vous pointez le fait que oui, mais en même temps, c'est pas forcément si facile que ça d'être super copain à un moment donné. Puis à un moment donné, on est bien dans une situation hiérarchique, il va falloir demander quelque chose à quelqu'un qui veut pas, et que ça peut être très difficile de revenir dans la position hiérarchique si on a joué le copain, alors que si on était dans un rôle finalement du manager un peu chiant et un peu distant, bon, on est protégé par ces rôles-là. Et donc renvoie encore sur ces solutions de management sympathiques, etc. Oui, mais le beau mot que vous avez employé est sûrement le mot d'équilibre. Il y a quand même des limites à ne pas passer.
Oui, donc on arrive, merci en tout cas pour ces présentations. Peut-être on va laisser une parole pour Florence Chabert. Elle peut-être répondre sur la question purement, est-ce que c'est dans ces vidéos, il y en a certaines effectivement qui pourraient être éligibles au concours de l'ANACT, hein, c'est une évaluation. Et puis après on prendra un petit temps pour évaluer la totalité du séminaire, hein, très rapidement. Voilà. Donc ça vous évitera de remplir un questionnaire plus tard. Donc peut-être Madame Chabert.
Bon, j'ai passé un très bon moment, hein. C'était hyper intéressant d'avoir vos retours, et puis bon, en images, de manière ludique, rigolote. Et j'ai trouvé très très proche, effectivement, toutes vos expériences de ce que nous, on peut rencontrer, effectivement, en entreprise, et qui concerne pas seulement les stagiaires. Voilà. Donc, un grand merci. Alors, c'est vrai que moi, je vous invite, j'inviterai bien tous les groupes, d'ailleurs, à présenter une vidéo dans le cadre du concours. Alors, c'est vrai qu'il y en a certaines qui répondent mieux que d'autres aux critères. Dans l'ensemble, vous avez souvent joué le jeu du fait de vous présenter dans la posture du manager. Ce qu'on recherchait aussi, c'était des idées innovantes en matière de qualité de vie au travail. Moi, j'ai été frappée de, effectivement, tous les sujets sur le temps de travail, la charge, qui sont vraiment les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui. Donc effectivement, j'en ai pointé quelques-unes qui ont plus de chances que d'autres de remporter un prix, mais le but est-il de remporter un prix ou de participer? Donc moi, je vous invite tous et toutes à répondre au concours. La date limite pour s'inscrire, c'est le 21 septembre, et la date limite pour déposer la vidéo sur le site, c'est le 24 à minuit. Le 2 octobre, vous saurez si vous avez un prix ou enfin si vous avez reçu un des trois prix. Et la remise des prix est le 9 octobre. Alors maintenant, je ne sais pas, est-ce que j'en formule quelques-unes qui étaient pour moi plus peut-être sous l'angle solution, organisation de travail, management. La deuxième sur la crédibilité quand on a peu d'expérience. La cinquième sous la répartition de la charge de travail avec les deux angles, individu, organisation. Alors j'ai quand même bien aimé la septième, même si pour nous à l'ANACT on dit c'est périphérique, c'est pas le cœur de la qualité de vie au travail, c'est le contenu du travail, c'est le sens du travail, c'est l'équipe, le collectif. Celle sur les expériences extra-professionnelles, bon, c'est quand même aujourd'hui quelque chose d'important. Celle aussi sur l'ambiance, la numéro 8, l'ambiance, la bonne humeur, qui est traitée effectivement, voilà. Et puis, celle sur la maîtrise de la charge du travail, la numéro 11. Celle sur l'open space. Nous, on travaille beaucoup sur les open space, même s'il n'y a pas de solution là évidente et qu'on voit que nous, les entreprises, alors elles vont de plus en plus vers le télétravail. Sauf que ça pose des problèmes, c'est que les gens ne sont plus ensemble pour travailler. Donc la 13 sur l'open space, la 14 sur savoir dire non et la 15 sur temps prévu, temps de travail. Est-ce que j'ai bien dit celle où il y avait Anne et Charles? Je ne me rappelle plus. Quel était le numéro? Et c'était laquelle? La 5, oui, donc je l'ai dit, répartition charge de travail. Voilà. Donc, voilà, merci à vous. Pour moi, c'était très intéressant. Eh bien, je vous souhaite bonne continuation. Et vous êtes déjà bien partis pour innover dans votre rôle managérial, je l'espère.
Merci.